Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
En quoi l'entrée agricole et alimentaire est motrice d'une transition plus globale ? Quel est l'intérêt d'une approche et d'une mise en réseau européenne et internationale ? Comment mettre en mouvement un territoire pour qu'il devienne un biodistrict ? Le 19 mai, l'association BioVallée organisait un colloque à Eure pour questionner la mise en mouvement des territoires ruraux vers la transition écologique en Italie, au Portugal ou encore en Espagne.
Salut, ça va ?
Reportage.
Claude Verret, donc je suis administrateur de BioVallée et responsable du réseau des biodistricts en Europe.
Alors la genèse, on me demande souvent de faire la genèse comme si j'avais 100 ans et que je connaissais parfaitement l'histoire de ce territoire. Je n'ai pas tout à fait 100 ans. Et l'histoire a démarré, comme toutes les histoires, très, très bizarrement. Et si je vous disais comment ça a démarré, vous me diriez que ce n'est pas vrai. Il y a une quinzaine d'années, et je rends honneur à celui qui presque l'a inventé, cette histoire de territoire apprenant.
Il y en a pour qui ce sont des éco-régions, comme en Espagne. En Italie, ce sont des biodistricts. Chez nous, c'est BioVallée, mais en France, il n'y a pas de biodistricts ni d'éco-régions à proprement dit. Par contre, il y a des autres réseaux, hein, comme les réseaux de la fabrique des transitions, ou le réseau de transition tout court, comme à Totnes, où il y a toutes des villes en transition. Et tout ça, petit à petit, comme on l'avait fait dans le Diwa il y a une dizaine d'années, on essaye de les mettre en lien parce qu'ils font un peu le même travail de valoriser les alternatives ou les bifurcations écologiques. Si souvent ces biodistricts viennent dans BioVallée, c'est parce qu'ils essayent d'imaginer ou de se projeter sur un territoire qui pourrait être plus écologique, plus social, plus démocratique.
Et avec cette vision permanente, d'avoir toujours une vision politique, une vision poétique et une vision philosophique de l'aventure BioVallée.
Sandy Laurent Péin, je suis chargée de l'animation du pôle des savoirs au sein de l'association BioVallée et c'est du coup notamment moi qui ai organisé cette semaine et cette conférence. Du coup, je mène les relations avec les biodistricts opérationnellement à BioVallée.
Dans les 40 dernières années, cette mythologie s'effondre devant les menaces à venir. Et le problème, c'est qu'il faut inventer un autre système. Et que c'est ce que j'enseigne aux étudiants, c'est que le problème, c'est que...
Alors en fait, sur cette semaine, là, depuis le début de lundi à mercredi, on a exploré le territoire, on est parti là où ça a commencé, dans le Diwa. Donc qu'ils aillent à la rencontre de personnes fondateurs, ils sont allés à l'herbier du Diwa, ils ont aussi exploré d'autres sujets que la question alimentaire et agricole. Donc ils sont allés à la rencontre de Diwat, ils sont allés voir les jardins nourriciers. Puis on a petit à petit bougé sur la suite, le Bas-de-Vallée. Hier, certains sont partis aux Amanins, d'autres à l'atelier des alvéoles. On a aussi très précédemment vu la Carline. En fait, dans toutes ces visites, c'est pas tant aussi qu'un échange de bonnes pratiques, c'est finalement d'arriver à reconnaître qui sommes-nous. Parce qu'en fait, en allant de pays en pays, on se rend compte qu'on a des communs, qu'on a des façons de faire similaires. Mais quand on me demande, moi, aujourd'hui, après ce travail qu'on fait depuis 2 ans avec les biodistricts, qu'est-ce que c'est qu'un biodistrict ? On a encore du mal à le définir. On sent les similarités. On fait ce travail en fait d'analyse en regardant nos acteurs du territoire au sein de la BioVallée, mais comme on l'a fait à Majorque en Espagne, comme on l'a fait à São Pedro do Sul au Portugal, on regarde comment ça se passe chez eux et on regarde nos communs, on regarde nos différences, on regarde ce qu'on pourra dans le futur apprendre les uns des autres. Et c'est ça un peu les objectifs qu'on se donne. Et du coup, on termine là un peu par cette journée de conférence pour reprendre de la hauteur sur ce travail de terrain qu'on a fait et se questionner en fait ensemble sur la transition à l'échelle européenne.
50 years and identify how this sector evolved over time. We've also explored the place of medicinal plants, the development of organic agriculture, but this is not all.
Mettre en réseau des territoires, mettre en réseau des projets, des programmes, des actions, mutualiser plein de choses, ça nous enrichit, ça nous apprend et c'est aussi comme ça qu'on fait, qu'on fait réseau et qu'on fait solidarité.
Il y a des différentes sphères sociales.
Je m'appelle Raffaele Basile, je viens de l'Italie et c'est la deuxième fois que je viens ici dans la Biovallée. Je suis ici comme représentant du Biodistretto Cilento et en plus comme représentant de INER, qui c'est le réseau International Network of Ecoregions. On a créé un réseau, c'est important, la synergie entre tous les différents pays où on a choisi de faire ce discours. Et j'ai continué à suivre le développement de l'éco-région, du biodistrict, comme nous voulons appeler, de la Biovallée, qui a été presque parallèle, nous pouvons dire, au parcours qu'on a eu dans d'autres territoires qui ont eu cette expérience de l'éco-région ou le biodistrict. Il y a une liaison entre ces différents territoires qui est comment on envisage le territoire. C'est ça, la liaison entre territoires qui pourraient sembler très différents, mais à la fin, ils se rassemblent lorsqu'ils ont une vision des écorégions au biodistrict.
Ce qui passe à travers du territoire, qui certaines fois soit appelé touriste, c'est quelque chose d'une certaine façon, un petit peu négatif avec l'évolution du tourisme des dernières années. Il y avait en France, naturellement...
C'est pas simple parce qu'on part, chaque territoire part de son point de naissance d'une certaine manière, et il y a des territoires qui sont en avance et des territoires qui sont extrêmement en retard. Chacun part un peu de l'état dans lequel il se trouve. Il y a des territoires, moi je suis allé par exemple à Ranis ou en République tchèque, ou à plus en Macédoine, à Berovo. C'est comme la France des années 30, quoi, tu vois, au niveau de l'agriculture et tout. Les gens se déplacent souvent avec des carrioles à cheval. Les ordures ne sont pas ramassées. Dans la ville, il y en a partout du plastique. Alors, ils ont mis des poubelles parce qu'il y a des programmes européens pour mettre des poubelles partout. Mais les poubelles, il n'y a personne qui les ramasse. Donc, ça déborde. Donc, la priorité, là, c'est par exemple de ramasser les ordures et de faire du tri et du recyclage. Donc, chaque territoire part un peu de là où il en est. Et puis, la relation à la démocratie est très complexe. On entendait tout à l'heure la relation politique en Italie. Surtout dans le sud de l'Italie, hein, le Cilento, la Sicile, la Calabre, tout ça, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a des relations très difficiles avec la mafia, donc c'est très complexe. Et puis, même dans d'autres territoires, comme l'Espagne, le Portugal, où on est en relation avec le Québec, ils partent de tellement loin. On a eu la visite de l'Australie qui voulait faire un biodistrict, sur un territoire où il y a des mines de charbon à ciel ouvert qui détruisent tout sur leur passage, qui mangent les terres agricoles, qui mangent les fermes, qui salarient les agriculteurs comme salariés, comme mineurs, avec des salaires de 4 fois plus élevés que ce qu'ils touchent dans leur ferme, donc une attractivité et tout. Il y a des entreprises de destruction en même temps dans certains territoires qui font qu'on ne sait pas trop où ils peuvent trouver des bifurcations, des alternatives ou des transitions. Donc tous les territoires sont très différents. Après, je pense qu'il y a des territoires qui sont en capacité, peut-être parce qu'ils ont touché le fond, et je pense au Cilento, parce qu'il est encore plus pauvre que le Diois ou que la vallée de la Drôme ou que la Biovallée, ils sont en capacité de changer plus vite parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dans une situation dramatique. La moitié des villages sont vides. Ils sont partis en Amérique, hein, on le sait tous. L'agriculture est dans un état de délabrement et les terres en friche sont partout. Et pourtant, quand on y va, tu vois, c'est un peu la montagne au milieu de la mer. C'est comme la Corse, un peu, tu vois. Et c'est beau. Et les jeunes qui sont là, ils veulent reprendre des exploitations en friche avec la vigne qui court dans la forêt, comme dirait Jean Ferrat, les oliviers qui sont plus travaillés. C'est magnifique. Et quand on connaît la métropolisation, enfin la vie dans les grandes villes, C'est sûr qu'on a envie de revenir sur la ferme des grands-parents.
Comme dans de nombreuses vallées, un bassin versant, ce n'est pas automatiquement un territoire. La vallée de la Grèce, ce n'est pas un territoire. C'est un inter-territoire assez parfait. Entre le Diwa, le haut, le bas, le Cadron, etc. Il y a des relations entre les deux.
Je m'appelle Sandra Dos Reis, je viens du Portugal donc, à l'occasion du séminaire des biorégions en Europe. Alors, je travaille pour Agrobio, donc, c'est l'association portugaise d'agriculture biologique. Et on est en partenariat avec donc, plusieurs associations européennes, donc, dont l'Espagne, la CIAE, la Biovallée et la Bergerie donc, en France, et Cilento et le INER international et donc, de l'Italie. Voilà. Et on travaille tous donc, dans un projet Erasmus des éduques éco-régions pour... préparer, disons, voilà, sur le plan éducation, tout ce qui est biorégion, donc voilà, biorégion, voilà. Alors, mais Agrobio en soi, donc c'est une association donc qui se dédie donc à aider les agriculteurs donc qui sont en phase de changement donc de l'agriculture traditionnelle vers une agriculture biologique, et donc ils aident tous les agriculteurs dans ce processus donc de changement, et non seulement après de l'accompagnement. Agrobio fait aussi des formations donc en agriculture biologique dans divers secteur, voilà, donc pour, mais ça peut être aussi des gens qui sont juste intéressés par ce thème et parce qu'ils ont un petit jardin à la maison, ils aimeraient bien faire avoir leur petit coin, voilà, avec des aliments et tout. Donc Agrobio donc aide le plus petit agriculteur au plus grand, voilà, de façon à permettre de développer donc l'agriculture biologique correctement, en accord avec voilà, tous les principes de l'agriculture biologique.
Je voudrais juste, par rapport justement à la définition que vous avez un peu donnée de la transition, dire on passe d'une transition, enfin d'un système qui est à l'équilibre vers un autre système qui est à l'équilibre. Moi, je me questionne, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu sur les territoires. J'ai vu sur les territoires, à un moment donné, un système ne fonctionne plus.
Peut-être qu'il y a un truc qui peut-être lie tous les biodistricts, c'est... un changement de vision, c'est-à-dire comme sur Biovallée, pour moi en tout cas, et pareil pour le Cilento, pareil pour tous les biodistricts, c'est on est au bout du rouleau d'une façon de faire en agriculture, en médecine, en éducation, en urbanisme, en nettoyage, en qualité de la rivière, en qualité des forêts, dans tout en définitive. Et il faut changer les choses. On va prendre notre avenir à bras-le-corps. Et une vision positive, sans être naïve, mais une vision positive de l'avenir, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place.
Au Portugal, il y a déjà trois éco-régions déjà bien établies. Il y a d'autres qui sont... Enfin, établies, elles sont jeunes encore. Hein, et elles sont en phase aussi de croissance et d'amélioration aussi sur encore beaucoup d'aspects, disons, qu'il faut travailler. Et donc la base, c'est toujours la partie géographique en fait d'un endroit, disons, qui a une certaine caractéristique, et puis développer aussi une agriculture qui soit donc bénéfique pour l'environnement et pour les gens. Et après, donc, par la suite, faire en sorte que même des zones qui sont dépeuplées puissent se transformer en des zones plus attractives, dans le sens d'apporter plus de monde, un peu plus de monde donc dans ces régions, et créer donc des nouveaux, je sais pas comment dire, mais des nouvelles perspectives économiques, de façon à ce qu'elles soient intégrées donc dans ce système écologique et de protection de l'environnement, dans une économie circulaire, en adaptant aussi tout ça aux écoles et enfin, dans un circuit en fait qui permet aussi qui soit du point de vue humain, très intéressant, et bien sûr du point de vue économique et de l'environnement, en fait. Voilà.
Donc nous, là, on a posé la question de devenir, en fait, comment devenir un biodistrict, comment mettre les territoires en transition. Donc vraiment, en fait, on s'est adressé aux autres territoires de la France dans cette optique de dire, venez rencontrer nos biodistricts et venez regarder ce qu'on fait. Donc la première table ronde porte sur la question de ces biodistricts partent d'une entrée alimentaire et agricole. Et ils partent de là, mais en fait, on va au-delà. On va au-delà, on touche à la question du tourisme. En Biovallée, on touche beaucoup à la question, par exemple, de l'énergie, de l'économie circulaire. Et on rentre sur ce sujet-là. On est rentré dans les années 70 dans le DIY avec ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a évolué. Sur la deuxième table ronde, en fait, c'est aussi de se poser la question. Bah, on travaille à l'échelle européenne. Même, du coup, on a des partenaires qui travaillent à l'échelle internationale. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte de se rencontrer Pourquoi faire un programme d'échange européen? Pourquoi s'engager dans des programmes Erasmus? Et des fois, je pense que c'est aussi une petite façon d'aller à l'encontre des critiques qui peuvent exister sur... c'est des balades. Non, c'est bien plus que des balades. C'est des vrais temps de travail. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Et qu'est-ce qu'on y gagne à être dans un réseau de territoires similaires? Et comment ça se manifeste concrètement? Et du coup, la troisième table ronde que l'on abordera cet après-midi, comment est-ce qu'on se lance? Enfin, comment est-ce qu'on se lance? On rejoint un réseau. Et ensuite, on fait quoi? Moi, je suis un territoire, je suis pays rouennais et j'ai envie de me lancer. Quelle première étape? Donc, on peut parler à la fois de notre expérience au sein de la Biovallée, quelles ont été les premières étapes, mais également les méthodologies que propose maintenant, qu'on a mis en place via ce réseau pour se lancer et faire la première étape, la deuxième. Et on aura un témoignage, notamment justement à Majorque. Ils ont lancé leur premier biodistrict il y a 2020, juste post-pandémie. Donc, ils sont tout frais, tout neufs et ils viennent témoigner de comment ça s'est fait chez eux.
Ça fait partie du projet, donc notre venue ici, donc cette semaine. On va découvrir. Donc, on a découvert et on découvre la Biovallée, tout ce qui a été fait donc, dans ce secteur. Et c'est ça, donc, je reprends un petit peu la question antérieure qui disait qu'en fait, il y a des choses qui sont semblables, effectivement. Et je pense que de ce point de vue-là, au Portugal, il y a encore des choses à encore améliorer pour qu'on puisse atteindre, par exemple, le niveau de la Biovallée qui a déjà fait un progrès significatif. Et on a pu voir donc... plusieurs organisations, associations et tout ça, qui ont travaillé donc dans le développement de la Biovallée. Donc c'est très très enrichissant. Et je pense que cet échange est très important pour que on puisse comprendre vraiment en quoi consiste la Biovallée, de façon à ce que on puisse respecter les traditions locales. Tout en préservant certains paramètres, disons, qui sont fondamentaux dans une biorégion. Voilà. Et donc, ces échanges-là, ils sont très importants pour ça, pour qu'on puisse comprendre d'autres façons de fonctionner et qu'on puisse partager et questionner et se remettre en question et voilà, et travailler tout ça. Donc c'est une construction, voilà, c'est un partage, c'est très enrichissant aussi. Le mois dernier, c'était à San Pedro do Sul, et voilà, c'est passé. Donc c'est une biorégion aussi qui a été conçue parce qu'effectivement, c'était déjà une zone très dépeuplée. Et donc c'est une zone thermale aussi, donc avec des... voilà, plein de caractéristiques... géographique et géothermale, voilà, qui était très intéressante et qui ces dernières années ont été développées, donc travaillées et certaines traditions ont été préservées, donc ce qui a fait son identité aussi en même temps, voilà. Et c'est ce qu'on découvre dans chaque biorégion, c'est qu'il y a quand même une identité locale et on cherche aussi à les préserver tout en ayant quelque chose en commun entre chacune des biorégions. Voilà.
La Biovallée, d'abord, c'est dans l'imaginaire des autres biodistricts, c'est emblématique. C'est pour les autres, je précise bien, pour les autres biodistricts espagnols, portugais, italiens, la Biovallée, sur lequel ils sont déjà venus. Notre ami Salvatore Basile est déjà venu il y a 7 ans et il y a 10 ans sur la Biovallée avec des colloques de ce type. Et il disait, nous, on est très loin en arrière sur beaucoup de sujets. Et donc, cette Biovallée est vue de l'extérieur comme un territoire en avance sur le tri des déchets, sur la qualité de la rivière, le nettoyage de la rivière, sur l'agriculture biologique, sur la mobilité, sur les énergies renouvelables, etc. C'est plus ou moins vrai. Il y a des choses très symboliques sur le territoire qui sont tout à fait innovantes. Je pense à 10 watts et les énergies renouvelables. Je pense aux centrales villageoises. Je pense à la qualité de l'eau de baignade de la rivière. Je pense aux mutations de la forêt qui est en train de s'amorcer. D'ailleurs, à cause du dérèglement climatique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, qui ont démarré il y a 50 ans ou plus, hein, mais qui sont en train d'aboutir. C'était normal que ce soit ici que ça se passe en définitive pour les biodistricts, parce que c'est cet imaginaire territorial qui les pousse, qui les oblige d'une certaine manière.
Eh bien, pour la première table ronde, dont le thème est « En quoi l'entrée agricole et alimentaire est motrice d'une transition plus globale ?», j'ai le plaisir d'inviter Madame Lamia Latiri-Ortoffer. C'est comme ça qu'on dit ? Donc, qui est chercheuse à la Bergerie nationale. Vous êtes peut-être comme moi, je me suis posé la question un jour en entendant ça, mais il y a une Bergerie nationale. Et elle m'a répondu en me disant que oui, elle était même royale avant. Donc vous voyez, c'est une grande dame. Je parle à la fois de Lamia, mais surtout de...
Lamia Latiri-Ortoffer, je suis ingénieure de recherche à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et il a pour mission, entre autres, d'accompagner la transition écologique au niveau des établissements de l'enseignement agricole. Le projet Éduc Éco-Région, dans lequel la Bergerie nationale est partenaire de 3 autres pays, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Et notre mission... dans ce projet-là, est de créer des outils pédagogiques à destination de l'enseignement agricole, dans les 4 pays bien évidemment, pour accompagner les transitions agroécologiques avec les exemples des éco-régions. Ici en France, nous avons les PAT, les plans alimentaires territoriaux, qui ne sont pas tous configurés pour aller vers des modèles qui ressembleraient aux éco-régions ou bioterritoires ou biovallées, comme nous avons ici dans le territoire de la Drôme. Donc du coup, voilà, on a déjà produit un ensemble d'outils pédagogiques pour les enseignants. Et le séminaire qui se passe ici dans la Drôme à Biovallée, c'est finalement le dernier séminaire où nous avons effectivement... 24 enseignants qui sont présents ici pour partager ensemble leur expérience pédagogique dans la manière d'aborder les projets territoriaux avec une entrée qui est vraiment focalisée sur les écorégions.
C'est 193 exploitations agricoles, 35 ateliers techno. Si les chiffres vous amusent, je peux vous en donner quelques-uns. On a 166 lycées agricoles sur le territoire, c'est-à-dire des lycées techno, et il y a 84 lycées professionnels avec évidemment 94 CFA et puis 31 ateliers techno. Donc tout cet ensemble d'établissements, on les accompagne dans les transitions agroécologiques, et cet accompagnement-là se fait sur un programme qui s'appelle « Enseigner à produire autrement ».
C'est la Bergerie nationale qui a vraiment apporté en fait cette dimension enseignement dans le projet. Alors tous les, on s'est forcément réparti les tâches, mais la Bergerie va nous permettre au niveau français, puisqu'en fait ils ont une grande place dans la définition des programmes agricoles, de l'enseignement agricole français, de disséminer, une fois qu'on a fait un cours, c'est bien, maintenant il faut que ce soit utilisé par les professeurs de France et de Navarre, et ils vont pouvoir nous permettre cette dissémination.
Dans l'animation des territoires, et de faire essaimer finalement des pratiques innovantes. Donc, les pratiques.
Et donc, du coup, c'est l'occasion rêvée en même temps de pouvoir être en contact avec les acteurs du territoire qui nous ont reçus, de pouvoir proposer aussi ce colloque qui va permettre finalement de mettre des tables rondes et de pouvoir partager ensemble cette expérience qui est une projection un peu dans finalement les systèmes qu'on voudrait qu'ils se mettent en place sur les territoires. Je ne parle pas de modèle parce que il n'y a pas de, comment dire, il y a une charte commune, mais après chacun des partenaires adapte aussi au contexte de son territoire. Donc on a des valeurs communes, on a des orientations communes qui sont axées sur l'agriculture biologique, sur les circuits courts, sur l'alimentation, sur toute la chaîne alimentaire finalement, depuis finalement le champ du fermier jusqu'à l'assiette du consommateur, avec toute l'idée de rediscuter finalement la question alimentaire, la souveraineté alimentaire, liée évidemment à toute la chaîne de développement territorial, avec tous les métiers qui peuvent contribuer justement à une vie sociale plus équitable, plus en logique avec justement le partage, la coopération. Et justement, le territoire de Bieuvallée est vraiment l'exemple type, en tout cas voilà, dans nos ateliers qu'on a eu à traiter cette semaine. Tous nos partenaires ont vraiment ressenti ce volet social très très fort et cette idée de la coopération. On se met ensemble et là, on devient plus fort et là, on peut proposer des innovations, des moyens de faire autrement. Et nous, toutes ces expérimentations et innovations nous intéressent parce qu'elles font partie du plan enseigner à produire autrement de notre ministère et qui est directement lié à nos établissements et qui est d'accompagner ces transitions. Et donc, du coup, on parle des transitions et pas uniquement de la transition. Parce que les transitions, elles sont à faire, en fait, dans toutes les filières et dans tous les domaines.
Et comme tous les jeudis soirs, on refaisait le monde plusieurs fois par soirée, parfois, et avec cette vision permanente d'avoir toujours une vision politique, une vision poétique et une vision philosophique de l'aventure Bieuvallée ou de ce qui allait être Bieuvallée. Et au bout d'un moment, il m'a dit, dans cette perspective, on va faire quelque chose qui n'existe pas, c'est d'imaginer des territoires apprenants, des territoires qui apprennent les uns des autres. Et à ce moment-là, on a imaginé une sorte de jumelage entre les territoires. Le jumelage existait sur nos territoires depuis la guerre, mais n'avait pas emboîté le pas de la transition écologique. Et donc on s'est dit, ben voilà, on va faire une sorte de jumelage des territoires. Et on a commencé à imaginer le premier voyage. Alors nous, financièrement, on l'avait inscrit dans le GPRA, donc je loue le travail qui avait été fait à l'époque par Philippe Méjean et par Jean Serret pour inscrire ces voyages dans les visites des districts. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore les biodistricts. Et je loue ce travail.
Les biodistricts avaient eu une période de basse eau, on va le dire comme ça, de reflux un peu de la vague. Et je trouve que là, avec ce qu'a imaginé la bergerie de Rambouillet, à un moment, ça relance cette dynamique. Parce que là, on était depuis 2-3 ans en basse eau. Et je trouve que là, tout le monde a pris conscience ce jour de l'importance de cette mise en réseau des biodistricts ou des éco-territoires. Et qu'il y a une vraie proposition de territoire apprenant, de territoires qui s'enrichissent les uns les autres, de solidarité, d'expérience à échanger. Je pense que là, on est vraiment sur un bon levier de faire évoluer nos territoires. On va s'apporter tous les uns aux autres. C'est là ce que j'en attends et c'est ce que j'espère que ça va réinsuffler, réoxygéner dans les années qui viennent.
Le projet Ronald s'est arrêté, sans tomber un peu dans les oubliettes de l'histoire, les biodistricts, sauf que nous avions signé avec le Silento, le sud de Naples, pour ceux qui le situent un peu, la Campanie.
On aimerait que d'autres territoires français comprennent l'importance et s'y lancent avec nous. Bieuvallée ne peut pas se faire chef de file d'eux, en fait. Mais ce qu'on voit, c'est que ça s'est diffusé partout. Ça s'est diffusé partout en Italie, ça se diffuse en Espagne, au Portugal, et on reste seul. Et j'aimerais que là, il y ait une petite étincelle qui s'allume à l'issue de ces conférences auprès de personnes du public qui se disent « je ramène ça chez moi », parce que je sais que c'est comme ça que ça a fonctionné dans d'autres pays, où ils sont allés voir des conférences en Italie, ils sont revenus, et ça a lancé la machine.
Fabrique, ou en tout cas fonds de l'économie. Et le monde associatif rame un peu pour mettre en place des politiques écologiques, sociales, etc. Dans la notion qu'on avait inventée avec Didier Jouve, c'était de mettre ça en dynamique. On appelle ça la triarticulation sociale, c'est un peu chiant comme mot, et ça fait pas, c'est pas très romantique. Mais en définitive, cette vision-là, on l'a mis en place dans l'organigramme, dans l'organisme de Bieuvallée, et dans la dynamique de ce territoire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Bieuvallée existe. On est en train de réfléchir à un quatrième et un cinquième collège. Le quatrième, bien évidemment, ce sera la rivière ou la forêt ou le vivant non humain. Et le cinquième, avec qui on travaille beaucoup avec Jean-Louis Vira, ce sera de mettre les écoles, les instituts de recherche, les lycées et collèges, les MFR, les maisons familiales d'éducation, dans la boucle, parce qu'on pense que l'avenir, peut-être qu'à nos âges, il faut essayer d'imaginer que ce seront les jeunes qui vont le mettre en place. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais beaucoup à dire, particulièrement sur le mot biovallée, biodistrict, les territoires de vie. Mais j'y reviens.